L'histoire de France.
Depuis quelque temps, Gorju couchait à la maison, afin de terminer plus vite le raccommodage du meuble. La perspective d'un déplacement le contraria, et comme il parlait des menhirs et des tumulus qu'il comptait voir, « Oh, je connais mieux, leur dit-il, en Algérie, dans le sud, près des sources de Boumursoub, on en rencontre des quantités. » Il fit même la description d'un tombeau ouvert devant lui par hasard et qui contenait un squelette accroupi comme un singe, les deux bras autour des jambes. L'arçonneur, qu'ils instruisirent du fait, n'en voulut rien croire. Bouvard approfondit la matière et le relança. « Comment se fait-il que les monuments des Gaulois soient informes ?» Tandis que ces mêmes Gaulois étaient civilisés au temple de Jules César, sans doute ils proviennent d'un peuple plus ancien, une telle hypothèse, selon l'arçonneur, manquait de patriotisme. N'importe, rien ne dit que ces monuments soient l'œuvre des Gaulois, montrez-nous un texte. L'académicien se fâcha, ne répondit plus, et ils en furent bien aises, tant les druides les ennuyaient. S'il ne savait à quoi s'en tenir sur la céramique et sur le celticisme, c'est qu'ils ignoraient l'histoire, particulièrement l'histoire de France. L'ouvrage d'Anquetil se trouvait dans leur bibliothèque, mais la suite des rois fainéants les amusa fort peu. La scélératesse des maires du palais ne les indigna point, et ils lâchèrent Anquetil, rebutés par l'ineptie de ses réflexions. Alors ils demandèrent à Dumouchel quelle est la meilleure histoire de France. Dumouchel prit en leur nom un abonnement à un cabinet de lecture et leur expédia les lettres d'Augustin Thierry avec deux volumes de Monsieur de Genoude. D'après cet écrivain, la royauté, la religion et les assemblées nationales, voilà les principes de la nation française, lesquels remontent aux Mérovingiens. Les Carlovingiens y ont dérogé. Les Capétiens, d'accord avec le peuple, s'efforcèrent de les maintenir. Sous Louis XIII, le pouvoir absolu fut établi pour vaincre le protestantisme, dernier effort de la féodalité, et 89 est un retour vers la constitution de nos aïeux. Pécuchet admira ces idées. Elles faisaient pitié à Bouvard, qui avait lu Augustin Thierry d'abord. « Qu'est-ce que tu me chantes avec ta nation française ? Puisqu'il n'existait pas de France ni d'Assemblée nationale, et les Carlovingiens n'ont rien usurpé du tout, et les rois n'ont pas affranchi les communes, mais lis-toi-même » Pécuchet se soumit à l'évidence et bientôt le dépassa en rigueur scientifique. Il se serait cru déshonoré s'il avait dit « Charlemagne et non Karl le Grand ». Clovis au lieu de Clodovis. Néanmoins, il était séduit par Genoude, trouvant habile de faire se rejoindre les deux bouts de l'histoire de France, si bien que le milieu est du remplissage. Et pour en avoir le cœur net, ils prirent la collection de Buchez et Roux. Mais le pathos des préfaces, cet amalgame de socialisme et de catholicisme les écœura. Les détails trop nombreux empêchaient de voir l'ensemble. Ils recoururent à M. Thiers. C'était pendant l'année de 1845, dans le jardin, sous la tonnelle. Pécuchet, un petit banc sous les pieds, lisait tout haut de sa voix caverneuse, sans fatigue, ne s'arrêtant que pour plonger les doigts dans sa cabatière. Bouvard l'écoutait la pipe à la bouche, les jambes ouvertes, le haut du pantalon déboutonné. Des vieillards, on leur avait parlé de 93, et des souvenirs presque personnels animaient les plates descriptions de l'auteur. Dans ce temps-là, les grandes routes étaient couvertes de soldats qui chantaient la Marseillaise. Sur le seuil des portes, des femmes assises cousaient de la toile pour faire des tentes. Quelquefois arrivait un flot d'hommes en bonnet rouge, inclinant au bout d'une pique une tête décolorée dont les cheveux pendaient. La haute tribune de la Convention dominait un nuage de poussière où des visages furieux hurlaient des cris de mort. Quand on passait au milieu du jour près du bassin des Tuileries, On entendait le heurt de la guillotine, pareil à des coups de mouton. Et la brise remuait les pampres de la tonnelle, les orge-murs se balançaient par intervalles, un merle sifflait. En portant des regards autour d'eux, ils savouraient cette tranquillité. Quel dommage que dès le commencement on ait pu s'entendre, car si les royalistes avaient pensé comme les patriotes, si la cour y avait mis plus de franchise et ses adversaires moins de violence, bien des malheurs ne seraient pas arrivés. À force de bavarder là-dessus, ils se passionnèrent. Bouvard, esprit libéral et cœur sensible, fut constitutionnel, girondin, thermidorien, Pécuchet, Bilieux et de tendances autoritaires, se déclara sans culotte et même robespierriste. Il approuvait la condamnation du roi, les décrets les plus violents, le culte de l'être suprême. Bouvard préférait celui de la nature. Il aurait salué avec plaisir l'image d'une grosse femme versant de ses mamelles à ses adorateurs, non pas de l'eau, mais du chambertin. Pour avoir plus de faits à l'appui de leurs arguments, ils se procurèrent d'autres ouvrages, Montgaillard, Prud'homme, Gallois, La Cretelle, etc. Et les contradictions de ces livres ne les embarrassaient nullement. Chacun y prenait ce qui pouvait défendre sa cause. Ainsi, Bouvard ne doutait pas que Danton eût accepté 100 000 écus pour faire des motions qui perdraient la République. Et, selon Pécuchet, Vergniaud aurait demandé 6 000 francs par mois. Jamais de la vie! Explique-moi plutôt pourquoi la sœur de Robespierre avait une pension de Louis XVIII. Pas du tout! C'était de Bonaparte. Et puisque tu le prends comme ça, quel est le personnage qui, peu de temps avant la mort d'Égalité, eut avec lui une conférence secrète? Je veux qu'on réimprime dans les mémoires de la campagne les paragraphes supprimés. Le décès du dauphin me paraît louche. La poudrière de Grenelle en sautant. Tu as 2 000 personnes. Cause inconnue, dit-on. Quelle bêtise! Car Pécuchet n'était pas loin de la connaître et rejetait tous les crimes sur les manœuvres des aristocrates lors de l'étranger. Dans l'esprit de Bouvard, montez au ciel, fils de Saint-Louis, les vierges de Verdun et les culottes en peau humaine étaient indiscutables. Il acceptait les listes de Prud'homme, 1 million de victimes tout juste. Mais la Loire, rouge de sang, depuis Saumur jusqu'à Nantes, dans une longueur de 18 lieues, le fit songer. Pécuchet également conçut des doutes. Et ils prirent en méfiance les historiens. La Révolution est pour les uns un événement satanique, d'autres la proclament une exception sublime. Les vaincus de chaque côté, naturellement, sont des martyrs. Augustin Thierry démontre à propos des barbares combien il est sot de rechercher si tel prince fut bon ou fut mauvais. Pourquoi ne pas suivre cette méthode dans l'examen des époques plus récentes? Mais l'histoire doit venger la morale. On est reconnaissant à Tacite d'avoir déchiré Tibère. Après tout, que la reine ait eu des amants, que Dumouriez des Valmy se proposa de trahir, qu'en Prairial, que ce soit la montagne ou la Gironde qui ait commencé et en terminèrent les Jacobins ou la plaine, qu'importe au développement de la Révolution, dont les origines sont profondes et les résultats incalculables. Donc elle devait s'accomplir, être ce qu'elle fut, mais supposer la fuite du roi sans entrave, Robespierre s'échappant ou Bonaparte assassiné, hasard qui dépendait d'un aubergiste moins scrupuleux, d'une porte ouverte, d'une sentinelle de l'endormie, et le train du monde changeait. Il n'avait plus sur les hommes et les faits de cette époque une seule idée d'aplomb. Pour la juger impartialement, il faudrait avoir lu toutes les histoires, tous les mémoires, tous les journaux et toutes les pièces manuscrites. Car de la moindre omission, une erreur peut dépendre qui en amènera d'autres à l'infini. Ils y renoncèrent.